Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 3h du matin, Nuit Gainsbourg sur RTL.
Bonsoir et bienvenue sur RTL pour cette Nuit Gainsbourg. C'est le top départ. Après avoir plongé dans le jazz, version Gainsbourg avec l'ami Jean-Yves et l'heure du jazz.
Éric Jean-Jean.
Je vous propose maintenant de rentrer de plein pied dans cette Nuit Gainsbourg. On va la partager sur RTL jusqu'à 3h du matin. Lucien Ginsburg, né le 2 avril 1928 à Paris, est mort le 2 mars 91 rue de Verneuil, toujours à Paris. Ça fera 25 ans précisément, mercredi. Alors dans un premier temps, pour cette Nuit Gainsbourg, d'ici 1h du matin, je vous raconte son histoire avec en fond sonore les précieuses archives de la rue Bayard et notamment les sublimes interviews d'Evelyne Pagès. Puis, entre 1h et 2h, deux émissions enregistrées, toujours rue Bayard à RTL, vont nous glisser en fait de Gainsbourg à Gainsbar. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va commencer par Gainsbourg, aux côtés de son ami Jean-Bernard Aimé. On est en juin 1979 dans l'émission Poste Restante dans le grand studio RTL. Et c'est au moment précis où, avec le succès d'Aux Armes, etc., Gainsbourg est en train de devenir une superstar. Et puis, en 1982, juin 82, Gainsbourg a basculé. Il est devenu une vedette, certes, mais Jane est partie et il boit beaucoup. Et c'est Gainsbourg qui anime son propre show, avec derrière la console le producteur de cette même émission, Bernard Meneguzzi. Gainsbourg, animateur sur RTL. Ce sera aux alentours d'une heure et demie. Et puis, pour la dernière partie de cette émission, entre 2h et 3h, on va tenter d'effleurer le chapitre de Serge et des femmes. Concrètement, d'abord avec une liste non exhaustive d'interprètes de muses et autres sublimes, dont les 3B, hein, Bardot, Birkin et Bourbou. Et puis, enfin, artistiquement, puisque pour terminer cette Nuit Gainsbourg, je vous diffuserai, ça dure 28 minutes, en intégralité, dans l'ordre et sans intervenir, ce qui est à mes yeux la pièce maîtresse de l'œuvre de Gainsbourg, Mélodie Nelson, sortie en 1971. Mélodie, eh oui, encore une fille. Allez, bonne nuit avec Serge sur RTL, c'est parti.
Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con.
I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser.
Il a dit. T'auras pas de cigarette.
Oh my goodness.
Non, you know, sometimes he's a little bit drunk, you know.
Yeah,
temps
I know.
Temps,
I'm
il est...
not drunk.
He
non.
must be.
Ah, vous... Non.
I'm not drunk
non,
today.
Non, il est normal, vous imaginez quand
Are
il est sous.
Sure?
Non, non, vous inquiétez pas, Whitney.
I'm not sure about that.
Are you sure you're not drunk?
Non, il est pas. Non, il est pas vraiment sous, c'est son état normal. Très bien. Whitney. On va maintenant...
Je suis superbe.
Bien sûr qu'elle est superbe. Enfin, elle est un peu secouée parce que tu l'as dit, quand même.
Best of the best.
Thank you.
Voilà. Présente-lui tes excuses.
Si, apologize.
Voilà.
Okay.
Voilà, il apologize, il s'excuse.
I apologize.
Voilà, il s'excuse parce que c'est un grand enfant. Il n'aura pas de cigarette, cela dit.
5 avril 1986, Champs-Élysées, en direct. Michel Drucker, très embarrassé, reçoit face à un Gainsbourg visiblement un peu touché, la jeune Whitney Houston. Incident et scandale aux États-Unis, où la chanteuse fera le tour des talk-shows pour raconter sa mésaventure française. Des images qui feront le tour de la planète et apporteront une pierre de plus à l'édifice Gainsbourg. Mais Gainsbourg, attention à ne pas s'y tromper, n'est que la partie émergée et encore en fin de vie d'un artiste majeur de la seconde partie du XXe siècle. Car si Gainsbourg a fait danser les jeunes sur de la funk et du reggae, Gainsbourg, lui, a écrit des merveilles. Pour lui, mais aussi pour les autres. Il s'appelait Lucien Ginsburg, troisième rejeton d'une famille russe et juive bien intégrée dans le Paris des années 20. C'est à l'Hôtel Dieu, sur l'île de la Cité, à Paris, que naît celui qui prendra quelques années plus tard le nom de Gainsbourg, rajoutant un A entre le G et le I. Nous sommes le 2 avril 1928 et celui qui ne s'appelle pas encore Serge pointe son nez. Et quel nez? Tout cela quelques minutes avant sa sœur jumelle, Liliane. Chez les Ginsburg, on ne roule pas sur l'or. Papa est pianiste. Il est pianiste dans les boîtes de nuit et court le cachet pour assurer le quotidien de sa femme et de leurs trois enfants. Chopin, Vivaldi, Bach. Gainsbourg racontera plus tard qu'il a entendu le piano de son père chaque jour de sa vie, de 0 à 20 ans. Et dès l'âge de 4 ans, Serge devra faire ses gammes tous les jours, pendant une heure. Tout comme ses deux sœurs. Enfant timide, craintif et fragile, il montre très tôt des dispositions pour le dessin. Il fait des petites BD qu'il intitule « Les aventures du professeur Flippus ». Les Ginsburg ne sont pas pratiquants et leurs enfants vont à l'école publique, laïque et républicaine. Mais en 1940, au mois d'octobre, Tous les juifs de Paris et d'Île-de-France apprennent qu'ils doivent se faire recenser. Et les parents de Serge obtempèrent, comme des milliers d'autres juifs à l'époque. Atteint d'une péritonite tuberculeuse qui à l'époque était mortelle dans 99% des cas, Serge en réchappe de justesse et est envoyé en cure à la campagne. Il est expédié dans un petit village de la Sarthe avec sa maman et ses deux sœurs pendant quelques mois. Le retour à Paris en 1942 s'accompagne d'une infamie, l'étoile jaune que Serge et ses deux sœurs ainsi que ses parents vont devoir porter, soigneusement repassée et épinglée sur leur manteau.
À présent, je crois que vous avez porté l'étoile jaune.
J'en suis même certain.
Comment la portiez-vous?
Comment la portez?
Comme un gosse qui porte ça comme une décoration.
Comme une étoile de shérif.
Oui, comme une étoile de shérif. Il paraît que vous la repassiez tous les jours.
C'est ma maman qui l'a repassée. Je suis pas sûr de lui demander. Oh, c'est quand même dur, hein.
Vous saviez très bien ce qu'elle représentait.
Je suis pas un crétin. Enfin, je n'étais pas. Mais ça, j'étais marqué comme on marque du bétail. Alors, je crois que ça m'a marqué à vie. Je l'ai toujours, là. Côté cœur.
Sans travail, Joseph, le père, passe en zone libre, où sa famille viendra le rejoindre 18 mois plus tard. Serge, petit, avec ses grandes oreilles et son nez, ainsi que ses grands yeux noirs, est l'archétype du juif honni par les nazis. Sentant le danger, leur maman, Olia, envoie les deux filles dans un couvent à Senlis et garde son fils à ses côtés.
Plus grand amour dans ma vie, tu m'as donné de ma mère. C'était réciproque. Et maintenant, je suis un petit orphelin.
Lorsque la famille rejoint Joseph à Limoges, elle bénéficie de l'aide des habitants. Les filles sont alors envoyées dans une école religieuse catholique et Serge est placé dans un pensionnat à une vingtaine de kilomètres, loin de ses parents et de ses sœurs. Mais la famille Ginsburg est visiblement née, pardon du mauvais jeu de mots, sous une bonne étoile. Elle a échappé aux rafles, à la déportation, aux confiscations et aux exécutions. De retour à Paris après la guerre, il ne sera plus jamais question de cette période chez les Gainsbourg. Mais Serge portera de nouveau l'étoile de David. Ce sera en 1969. Cette fois-ci, elle sera en platine et signée Cartier.
Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le Brexit. Je chante pour les transistors.
Gainsbourg, c'est plutôt un élève médiocre, il ne passera jamais son bac. Son seul talent, en fait, c'est le dessin, en tout cas à l'époque. Viré du lycée à l'âge de 17 ans, il s'inscrit à l'académie de Montmartre. Son père, estimant qu'on crève souvent la dalle quand on essaie de vivre de la peinture, lui impose des cours de guitare. Et très vite, Serge va enchaîner les petits boulots le samedi soir, dans les bals de noces ou les baptêmes. Le jeune homme prend goût à la musique et s'inscrit à l'école normale de musique de Paris. C'est d'ailleurs probablement à cette époque qu'il décide qu'il sera compositeur de chansons, tout en continuant la peinture, un art majeur, comme il aime à le dire. En fait, il suit les pas de son père et entame le circuit des boîtes et des bals comme guitariste et pianiste. Un soir, au Miller Larsouille, où il se produit, il voit Boris Vian. C'est le déclic. Il se découvre des velléités d'écriture. Inspiré par Vian, il dépose ses premiers titres à la SACEM. Nous sommes en juillet 1955.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli. Tourbillonne, gramophone, et bâillonne mon ennui.
J'étais un petit guitariste, comme ça, guitare mis en lasso, et puis je pianotais. Piano-guitare, c'était assez rare. Donc on m'a proposé c'est mon père qui m'a trouvé cette affaire. C'est-à-dire, mon père était au carrefour de tous mes destins. Je ne l'ai su que trop tard, quand il est mort. Mais c'est un constat. Et il m'a dit, un camarade intellectuel, qui se situe rive droite, mais qui est de style rive gauche. C'était un don qu'on a, dirons-nous, à l'agonie de la rive gauche. J'accompagnais donc Michel Arnaud à la guitare, et là, un jour, Boris Vian arrive, impromptu, avec Alain Goraguer, et passe sur scène. Et moi, je n'écoutais pas les variétés, ce qu'on appelle les variétés, je ne sais pas ce mot, comment peut-on appeler ça. J'écoutais la TSF à l'époque, j'écoutais la musique classique. Et puis quand j'ai vu Boris Vian, sa performance, je l'ai vu, son physique extraordinaire, sa voix acide, vitriolée, eh bien, il s'entend des choses extrêmement intelligentes, aussi très dures, très cyniques. Eh bien, je me suis dit, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire dans cet art que je considérais comme mineur. C'est ça qui m'a donné, c'est Vian qui m'a donné le goût de... Mmh. L'idée d'essayer dans ce domaine mineur. Et donc c'est Michel Arnaud qui a lu la première mes textes, qui m'a dit, allez-y. Et Francis Claude m'a fait monter sur scène.
Nuit Gainsbourg sur RTL.
1956, Lucien Ginsberg devient Serge Gainsbourg. En fait, il en a marre de son prénom de coiffeur pour homme et de son nom, sans cesse écorché par les profs lorsqu'il était à l'école. Juin 1957, il dépose 4 titres à la SACEM, dont Le Poinçonneur des Lilas, et se lance dans la chanson française de qualité. Il commence à se faire un petit nom dans l'univers des cabarets où il se produit. Pendant ce temps, il compose et son répertoire s'enrichit.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Ce sont les frères Jacques, célèbres dans les années 50 avec leurs collants, leurs moustaches et leurs chapeaux, qui font du Poinçonneur des Lilas un vrai tube. N'empêche, Serge est décalé. Il a 30 ans, il chante pour un public intello blasé. Son premier album est noir et cynique, comme lui, et ne recueille pas l'enthousiasme des critiques. Il se produit toujours dans les cabarets, et son idole, Boris Vian, écrira de lui qu'il faut aller écouter en chair et en os Serge Gainsbourg. Boris Vian qui l'invite chez lui. Les deux hommes passeront une après-midi, enfermés, dans une pièce, avec un piano blanc. Jusqu'à sa mort, Serge parlera de cette unique rencontre avec des étoiles dans les yeux. Sur scène, où il enchaîne les premières parties des stars de l'époque, Serge Gainsbourg est une catastrophe. Malade de trac, rongé par la timidité, il enchaîne les bides.
Oui, je peux être loin, mais il faut pour ça que j'ai un verre dans le nez, parce que je suis timide. Et l'alcool, pas trop, hein, parce que sinon, ça va pas. Sinon, j'ai des trous de mémoire. Mais je bois moins. Hein.
C'est pourtant à cette époque que Juliette Gréco entre dans sa vie. Elle vient le voir un soir au Miller, et celui qu'elle appellera Chauve-souris devient alors son auteur, compositeur. C'est d'ailleurs pour elle qu'il écrira en 1963 la fameuse chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de Prévert et Cosma. Et
chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir.
Mais reprenons le cours de notre histoire. En 1959, Gainsbourg court toujours le cachet et fait plus de 300 concerts par an. Il reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles Cros et sort un deuxième album, qui ne fait pas un carton. En fait, il faudra attendre le milieu des années 60 pour que le succès enfin arrive.
Ma gueule est en train de s'arranger. J'ai une jeunesse ingrate, comme tous les gars qui ont eu un physique perturbé. Maintenant, avec les cheveux blancs et la boisson et le tabac, je crois que ça commence à aller.
Sa gueule, justement, qui lui vaut de décrocher des petits rôles dans des péplums. En général, il joue le rôle du méchant qui meurt dans d'atroces souffrances. En 1962, Gainsbourg galère et envisage d'arrêter la chanson. Nous sommes alors en pleine période yéyé. Serge est en pleine déprime, mais il suffira d'un dîner chez Juliette Gréco, où il passe la soirée à écouter de la musique classique et à boire des grands vins. Aux aurores, Gréco se lève et se met à danser devant lui. Le lendemain, elle reçoit une superbe composition d'orchidées grimpantes, accompagnée d'un mot de Serge qui lui dit qu'il vient de lui écrire une chanson inspirée par cette soirée.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Cette même année, Brigitte Bardot veut se lancer dans la chanson et demande à Gainsbourg de lui écrire des chansons. Il compose à l'époque aussi des chansons pour Pétula Clark, Isabelle Aubry ou encore Nana Mouskouri. Parallèlement, Sacha Distel l'embauche comme compositeur maison pour ses Sacha Show, produits par les fameux Mariti et Gilbert Carpentier.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker.
Clyde Barrow,
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Octobre 1963, France Gall vient de sortir un premier 45 tours qui cartonne et son producteur organise une rencontre entre Serge et France. Serge qui dira plus tard qu'elle lui a sauvé la vie alors qu'il était en perdition. Résultat, l'inspiration revient et il réalise un nouvel album, Gainsbourg Percussion. 12 titres, 7 jours de studio, 15 000 francs de budget et l'inoubliable couleur café.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
Le succès reste toujours confidentiel, mais il est un auteur reconnu et se produit en première partie d'une tournée de la chanteuse Barbara. Paradoxe de Gainsbourg, ses propres albums ne se vendent toujours pas, mais ses interprètes ont, eux, du succès. Devenu un habitué des shows télé de Mariti et Gilbert Carpentier, Gainsbourg compose alors « Poupée de cire » pour France Gall, qui représente le Luxembourg à l'Eurovision lors de l'année 1965. 150 millions de téléspectateurs, 32 points pour le Luxembourg, qui l'emporte face aux 17 autres pays concurrents. Dès lors, les commandes affluent. Salvador, Sacha Distel, Eddy Mitchell et Jeanne Moreau commandent des chansons à Gainsbourg. Avec ses droits d'auteur, il donne de l'argent à ses parents, écume les antiquaires et gâte ses sœurs et ses neveux et nièces qu'il adore. Il claque aussi son argent dans les boîtes de nuit et rencontre Régine.
Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer.
Pour elle, il composera les petits papiers en lui disant qu'il a écrit un truc machin sans queue ni tête sur un tout petit bout de papier. Entre 1964 et 65, il signe 8 tubes, mais les ventes de son propre album plafonnent à 3 ou 4 000 copies.
J'ai des droits d'auteur. Je suis un gros toucheur à la SACEM. Tandis que les acteurs ont des vies comme ça, perturbées. Le public est ingrat. Les jeunes chanteurs coulent et je reste. Vous comprenez? Je les mets un peu au tapin, quoi. Ils font des galas. Moi, je touche les 18 ans.
Nouveau succès en 66 avec La Gadoue, chantée par Petula Clark. Il se paye le luxe de refuser d'écrire pour Johnny et Eddy Mitchell et compose Les Sucettes pour France Gall, hymne salace à l'innocence. Bourré de second degré qui plongera France Gall dans l'embarras au point qu'elle souhaitera stopper la vente du disque.
Pas juste deux minutes, là, c'est pour vous apporter quelque chose.
Qu'est-ce que c'est?
C'est moi en japonais.
Qu'est-ce que ça donne?
Ben, c'est-à-dire que il faut que je lise, si je me souviens bien. Watashi wa yume ni pas ningyo, ni
Ah bon?
Voilà. La différence, c'est-à-dire que c'est l'accent un peu japonais.
Expliquez-moi le texte des sucettes.
C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Hein? Et puis, c'est tout, non?
Pour quelques pennies. Ces sucettes à la nuit, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux.
Alors d'abord, c'est une chanson que dont France n'a absolument rien compris. Rien compris à ce texte, c'est qu'elle a dit à quelqu'un ces derniers temps, pourquoi qui lui demandait pourquoi elle ne chantait pas les sucettes. Elle a dit, c'est plus de mon âge.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
À l'occasion d'une émission de télé consacrée à la star de cinéma, Bardot et Gainsbourg se retrouvent autour d'un déjeuner. L'actrice lui raconte ses déboires cinématographiques. Elle tourne un navet et se retrouve abandonnée par son mari Gunther Sachs le jour de son anniversaire. Peu de temps après, Serge l'appelle et lui demande si elle a un piano. Il vient et lui joue Harley Davidson. Elle essaye de chanter sans conviction. Ils ouvrent une bouteille de champagne et rompent la glace. Ce sera le début d'une passion fulgurante entre la plus belle actrice du cinéma français et l'homme à la tête de chou. Serge oublie ses complexes de lait grâce à Brigitte.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer.
Elle n'est pas une chanteuse, mais les enregistrements se font rapidement. Elle n'a pas de problème de justesse. Et bizarrement, les techniciens prennent un bain tous les jours, s'habillent comme le dimanche avec leurs plus beaux costumes et leurs plus belles cravates, et arrivent avec une demi-heure d'avance au bas mot à chaque fois que Brigitte doit venir quelque part.
Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Ce titre est enregistré en 2 heures au studio Barclay. 4 minutes 35 de râles et de cris amoureux, comme l'écrira France Dimanche. La liaison entre Gainsbourg et Bardot fait le bonheur des paparazzis et l'article sur « Je t'aime, moi non plus » déclenche la fureur du mari de l'actrice qui prend le premier avion pour Paris afin de s'occuper de l'affaire. Paniqué, Bardot demande que le disque ne soit pas publié et écrira une lettre manuscrite à Gainsbourg. « Serge, je te supplie d'arrêter la sortie de « Je t'aime ». Dont acte. La liaison entre Gainsbourg et Bardot va continuer et faire les choux gras de la presse à scandale. Mais Brigitte part tourner un film à l'étranger. Son mari veille au grain et l'accompagne. Bardot et Gainsbourg ne se reverront plus jamais. Gainsbourg dira juste plus tard qu'elle l'a marqué au fer rouge.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. Des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt.
À la mode, rendu sexy par Bardot, il se console en multipliant les aventures, jusqu'à la rencontre avec une petite Anglaise du nom de Jane Birkin. Elle a les jambes tordues, porte des mini-robes et baragouine à peine le français, mais elle décroche un rôle dans un film avec un certain Serge Gainsbourg. Il se comporte comme un mufle avec elle lors des premières scènes. Mais paradoxalement, Serge tombe amoureux lorsqu'elle fond en larmes. Les événements de mai 68 poussent Jane à rentrer en Angleterre, en attendant que ça se passe, en portant avec lui le souvenir d'un homme arrogant. Est trop sûr de lui. Lorsque le tournage reprend, leur histoire d'amour commence, mal. Après une tournée des boîtes de nuit, Gainsbourg amène Jane au Hilton, et là, le réceptionniste fait une gaffe en lui disant « Monsieur Gainsbourg, comme d'habitude, la 642 ?» Cette nuit-là, comme la suivante, il ne se passe rien. Mais Serge est fou de sa petite Anglaise. Alors qu'elle doit repartir à Londres quelques jours, il lui compose « Overseas Telegram ». Un télégramme que Jane, en fait, ne lui rendra que 11 ans plus tard, à la rupture.
« J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme. »
jamais. Couvrons mon télégramme, délisons ce télégramme. À la fin du télégramme, tu te mets à pleurer.
Et Gainsbourg recompose de plus belle. Comment te dire adieu pour Françoise Hardy. Encore un tube. Ça, c'est début 69.
69.
De leur côté, Jane et Serge deviennent un couple officiel. Ils s'installent rue de Verneuil dans une maison que le père de Serge a trouvée pour son fils.
Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour.
Comme la vague irrésolue.
Jane que Gainsbourg va enregistrer finalement la première version sortie officiellement de Je t'aime moi non plus. Le disque fait scandale et devient un tube. 200 000 exemplaires vendus en juin 69. Slow culte de l'été. Censuré en Italie, jugé obscène par le Vatican, interdit en Espagne, au Portugal, au Brésil et en Suède. Plus embêtant, la reine Juliana étant actionnaire de Philips, la maison de disques de Gainsbourg. Dans les mois qui suivent, la chanson va rapporter 2 millions de francs à Serge et 1 million à Jane.
Jane Birkin est jolie. Et je suis moche. On s'est fait la belle et la bête. Et si vous voyez un couple, un homme très beau avec une très belle femme, ben la femme est écrasée. Tandis que par le contraste, je pense que l'un, l'une gagne et l'autre, évidemment, se ramasse tout.
J'ai jamais aimé tellement les gens. Les hommes de plage, vous savez, qui flexent le muscle chaque seconde. Je n'aime pas ça, de toute façon. Alors j'aime lui, il est inquiet, son visage. Il a un profil très beau. Très beau, son nez est fantastique. Et moi, j'aime physiquement. Mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça avant.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré. Vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Bonheur de peur qui ne se sauve, se dit qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux. Crois en Dieu, crois en Dieu, même quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, comme une dans un coin d'alcôve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux.
Le couple devient alors la cible préférée des paparazzi. Jane qui poursuit sa carrière d'actrice et Serge qui cogite sur un prochain album. Alors que il tourne un navet en Yougoslavie avec 50 000 francs payés par les producteurs, il s'achète une Rolls, modèle 1928. Il n'a pas de permis, ni de chauffeur. La voiture restera 10 ans dans le garage jusqu'à ce qu'il la revende en gardant simplement le bouchon du radiateur. Bouchon qu'il évoque dans la chanson qui sera la première chanson de son nouvel album. Un enregistrement dingue, une comédie musicale symphonique. Mélodie Nelson. La presse accueille la sortie de l'album comme un opus majeur. Le premier vrai poème symphonique de l'âge pop. Le problème, c'est que l'album ne marchera pas du tout.
Ça, c'est l'histoire de...
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes.
Serge compose le premier album de Jane, Didouda. Chaque chanson est un mini-portrait, à la fois drôle et rythmé. De santé, il écrit « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Chanson qui n'effleure même pas les hit-parades lors de sa sortie.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
L'album de Jane ne marche pas non plus. Pas plus que le film, inspiré du tube « Je t'aime moi non plus », sorti en 76 et réalisé par Gainsbourg. Après ses échecs respectifs, ce sera une grosse déprime. Elle va durer un an durant lequel Gainsbourg va jouer les papapoules avec Charlotte et Kate, la fille de Jane. Serge s'est acheté quelques années plus tôt une sculpture dans une galerie parisienne. Elle s'appelle « L'homme à la tête de chou ». Elle est signée Claude Lalanne. Elle représente un homme, nu, assis la tête remplacée par un chou. C'est à cette sculpture qu'il va puiser l'inspiration pour son nouvel album. Enregistré à 6 jours, à Londres. De nouveau un concept album où Gainsbourg, cette fois-ci, pose les mots sur les mesures. On appelle ça le talk-over. Gainsbourg peaufine les textes avant de les mettre en musique. La critique, une nouvelle fois, va encenser cet album comme un chef-d'œuvre majeur, mais commercialement, les ventes ne dépasseront pas les 25 000 exemplaires.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes.
Enchaîne avec Ex-Fan des 60s, nouvel album de Jane Birkin, une réussite. Et puis ensuite, de nouveau du succès avec Sea, Sex and Sun, un gimmick disco, bande originale du film Les Bronzés qui envahit les pistes de danse des nightclubs et des ondes, jusqu'à atteindre la 4e place du 8 RTL. En 1978, Serge fête ses 20 ans de carrière et il lui vient l'idée d'aller en Jamaïque pour enregistrer son prochain album. Objectif, s'inspirer du reggae. Aux armes, etc. est enregistré au studio Dynamic Sound à Kingston, en Jamaïque, avec les plus grandes pointures du reggae. Les textes, eux, sont écrits la veille des enregistrements sur des petits bouts de papier qui jonchent le lit et la chambre d'hôtel de Gainsbourg.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant.
Il a appliqué la technique du collage, plaquant l'hymne patriotique français sur un tempo exotique. En un mois, il dépasse les 100 000 exemplaires. Beau cadeau d'anniversaire pour celui qui fête ses 51 ans. Le public aime, la presse, beaucoup moins. En fait, la polémique va démarrer avec un article dans le Figaro magazine. Le journaliste dénonce l'outrage à la Marseillaise. Le Monde prend le train en marche, suivi par des associations d'anciens combattants. Et le secrétaire d'État aux anciens combattants lui-même intervient pour demander à limiter à une fois par semaine la diffusion d'Aux Armes, etc. N'empêche qu'à ce moment-là, Serge squatte les playlists des trois grandes radios de l'époque. À 51 ans, Serge Gainsbourg devient enfin une superstar et se décide à faire une série de concerts. Au début, ils sont prévus au Palace. Pour les préparer, il va délaisser Jane. Lors d'un concert à Strasbourg, une soixantaine de paras vont investir la salle, distribuer des tracts. L'ambiance est survoltée avec un public hostile aux militaires. Serge est lâché par ses musiciens qui décident de s'enfuir, mais lui monte seul sur scène et chantera la Marseillaise, la vraie, a cappella, avant de retourner dans sa loge, en larmes.
Je pense que le reggae, c'est une musique révolutionnaire. La Marseillaise est un chant révolutionnaire. Bon, qu'on danse dessus, on dansait bien sur la Carmagnole. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Alors on dansera sur la Marseillaise.
Le carton de son dernier album, Aux Armes, etc., s'accompagne d'une aisance financière certaine. Mais dans la vie de Serge, rien ne va plus. Jane vient de rencontrer Jacques Doyon pour qui elle va bientôt quitter Serge. Elle ne supporte plus ses excès, son alcoolisme. En septembre 80, elle le quitte, en pleine nuit, emmenant ses deux fillettes, après 12 ans de vie commune.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même là. Comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane.
Désespéré, Serge se lance à corps perdu dans l'alcool et dans l'écriture de nouveaux textes. Il offre « Dieu est un fumeur de Havane » à Catherine Deneuve et rencontre dans une boîte de nuit un jeune mannequin de 21 ans, Bambou, qui sera la dernière femme de sa vie. Une histoire torride et destroy, qui donnera néanmoins naissance au petit Lulu. Bambou, qui sera d'ailleurs le titre d'un nouveau tube, écrit par Gainsbourg, pour Alain Chauffeur. Époque que Gainsbourg devient Gainsbar, multipliant les provocations et les polémiques en achetant par exemple un manuscrit, celui de la Marseillaise rédigé de la main de Rouget de Lille. Il bosse pour Julien Clerc, qui est obligé de l'enfermer en studio pour être sûr qu'il travaille sur les chansons demandées. Il croise Alain Bachung, compose pour lui, puis pour Isabelle Adjani et bien sûr toujours Jane.
Je me suis aussi planté avec Mireille d'Arc, avec d'autres charmantes filles du cinéma. Mais j'aime ça, j'aime côtoyer. Je sais que je pourrais. Il serait plus bénéfique sur le plan. Fric de travailler pour. De grandes vendeuses du showbiz, mais je préfère prendre des actrices.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'as.
Isabelle Adjani, vous n'avez jamais tourné avec elle?
Non.
Mais vous avez écrit avec elle, parce qu'il paraît qu'elle signe des chansons. Elle écrit vraiment?
Elle écrit avec moi, pas seule. Enfin, elle écrivait avec moi. Je pense qu'on ne veut pas récidiver. C'est aussi bien pour elle que pour moi. Non, mais on a fait un joli disque, qui est disque, aussi disque d'or.
Disque d'or pour Pulmarine.
C'est une des plus grandes actrices que nous ayons actuellement. Une des plus jolies frimousses que l'on puisse voir sur celluloïdes.
Pulmarine, chantée par Adjani, connaît un succès phénoménal et s'installe en tête du hit parade en 1984. Pendant ce temps, Gainsbourg offre Alone in Babylon à Jane ou encore Les Dessous Chics. L'histoire d'amour entre Jane et Serge est en train de se transformer en une belle et définitive amitié.
Les Dessous Chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les Dessous Chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, enfilés.
Au même moment, Gainsbourg entre dans le dictionnaire Larousse, tome 5. 24 lignes, dont celle-ci. Doué d'un humour grinçant et subtil, il a su imposer au public un personnage désinvolte, désenchanté et sardonique qui cache une très vive sensibilité. Sensibilité, ça c'est vrai, notamment face aux femmes.
Elles m'ont fait souffrir. Oui, les séducteurs se font jeter. Moi, je me suis fait jeter pas mal. J'en ai jeté aussi. Mais je me suis fait jeter, j'en ai pris plein la gueule dans ma vie. Je parle pas des dernières années, ça, on connaît. Mais c'est pour ça que mes chansons sont aussi agressives. C'est cette sincérité, d'ailleurs, qui a fait que j'ai fait un parcours de 27 ans de carrière. Si j'étais un faux cul, je serais plus là, hein. J'ai voué, les femmes m'ont blessé.
Mais entrer dans le dictionnaire ne met pas forcément du beurre dans les épinards. Alors pour gagner sa vie, Gainsbourg réalise des pubs et fait de la pub. Il réalise aussi des clips comme Morgane de Toi pour Renault ou plus tard Indochine.
Jusqu'à 3h du matin, Nuit Gainsbourg sur RTL.
En 1984, Gainsbourg est appelé à la rescousse par son grand ami Jacques Dutroux. Jacques veut enregistrer un 45 tours pour se libérer de son contrat avec sa maison de disques. Le 45 tours sera Merde in France. Le jour de l'enregistrement, Gainsbourg arrive sans avoir écrit une seule ligne de texte, mais avec sa mallette, qu'il ne quitte jamais et qui lui sert à préparer des cocktails. Du coup, Dutronc improvisera le texte en chantant n'importe quoi, et sur la pochette, Gainsbourg sera crédité comme barman.
Hey, la fauchonne conne du Mouloud, lavabo, trottoir, Mouloud. Merde in France. Elle a fonctionné comme du hoop. Is a booker, is a nice, is a trip, a booker, na merde in France.
Et dans le grand n'importe quoi, Gainsbourg excelle, comme le 11 mars 1984, où, en direct sur TF1, lors de l'émission 7 sur 7, il brûle un billet de 500 francs.
Expliquez pourquoi vous l'avez brûlé, ce billet. Vous vouliez montrer ce que les impôts vous prenaient, c'est ça?
Oui, mais c'est bien ce que j'ai dit.
Mais c'est maladroit. Là, si
non,
vous vouliez vendre des disques, vous avez
extrêmement...
raté votre coup.
Absolument pas. J'ai eu pour 500 briques de publicité. J'étais à la une de tous les canards. Mais allons.
Il n'y a pas de morale, c'est dégoûtant.
Non, il n'y a pas de morale. Dans la rue, le lendemain, tout le monde se marrait.
Dans la rue, justement, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un homme merveilleux, charmant, très agréable, sympathique avec le personnel et plus que généreux. On a eu le droit même à l'avant-première du billet brûlé qu'il avait fait à la télévision. Et un jour, il a trouvé qu'un de ses collègues artistes n'avait pas été assez généreux avec le personnel. Il a pris un billet de 100 francs et il l'a brûlé pour lui faire voir ce que c'était que d'être généreux avec le personnel.
Vous aviez répété.
C'est mon métier.
Vous aviez répété.
J'avais répété.
Vous aviez répété dans votre restaurant favori, le Galant Vert. C'était le patron du Galant Vert, la rue Galant Vert, c'est ça? Je ne me trompe pas? Vous étiez allé répéter, si je brûle un billet de 100 francs, qu'est-ce que ça fait? Très bon. Bon truc, je vais le faire à la télé demain, c'est ça?
Non, c'est pas ça du tout. Je vais vous dire ce que c'est. J'ai un numéro de précipitation où je prends un billet et j'ai dit, regardez bien. Donc un billet de 10 sacs. Alors je le brûle et les gens sont absolument fascinés. Je dis, mais comment il va faire? Je le brûle, les cendres sont entre les paumes de mes mains. Et ensuite je dis, merde, je me suis trompé.
Un nouveau scandale comme Gainsbourg les aime. Nouvel album aussi, avec un tube, Sorry Angel, qui s'installe à la deuxième place du 8 RTL en avril 1985. Il sera suivi de Love on the Beat et de Lemon and Zest avec sa fille Charlotte.
Elle a commencé avec moi à New York avec Lemon and Zest. Alors je commence, je mets deux micros
Alors, je raconte ça pour ceux qui croient que je suis un garçon cynique. Je mets deux micros et je dis, on fait la chanson ensemble. Elle était pas loin, elle était à Montréal, en train de tourner avec Catherine. Et la petite Charlotte commence cette chanson, cette mélodie terrible, difficile de Chopin, qu'on appelle tristesse de Chopin. Et moi, mes yeux, je commence à, mes yeux s'embuent de larmes. Et je me détourne parce que je vois cette petite fille accrochée à son micro pour plaire à son papa. Je me suis bien chialé, j'ai dit, à pleurer. J'ai dit, bon, en fait, d'abord la voix de Charlotte, ensuite, pour la mienne.
Sera disque de platine, un de plus pour Gainsbourg. La même année, Serge perd sa maman. Celle qui suit, l'année, sera plus joyeuse avec la naissance de Lulu. Mais Gainsbourg n'en poursuit pas moins sa descente aux enfers et entretient sa cote d'impopularité, à tel point qu'en 87, le mensuel Globe titre « Gainsbourg, assommant Gainsbourg, fin de parcours ». Bref, c'est l'overdose de Gainsbourg la provoque, Gainsbourg l'alcoolo. Il signera pourtant à cette époque le magnifique Lost Song pour Jane. Ultime album de Gainsbourg, You're Under Arrest sort en 1987 avec le single Aux Enfants de la Chance. S'en suivra une série de concerts au Zénith de Paris en 88 et puis une tournée. Son alcoolisme atteint des sommets et en 89 il est opéré durant 6 heures. Ablation des deux tiers du foie.
Moi j'ai déjà perdu deux cardiologues et le troisième c'est ce qui est arrivé. C'est moi qui suis allé le voir à l'hosto. Avec des livres d'art, des confitures, des fleurs. Sans le premier, c'est lui qui a eu la crise cardiaque. Il fume pas, il boit pas. Et vous savez ce que serait dit Schwarzenberg à 7 sur 7 un client vient le voir. Et dit, docteur, si j'arrête de fumer, de boire et de... Hein, est-ce que vous pensez que j'ai une chance de vivre plus longtemps? Et Schwarzenberg lui a dit, écoutez, vous avez peut-être une chance de vivre plus longtemps, mais ça va vous paraître très long. Je trouve ça super.
D'abord, je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Mais toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées.
À ce moment de sa vie, Serge n'a plus que 30 mois à vivre. Et il plonge dans le travail, compose la chanson pour l'Eurovision de l'année 90, White and Black Blues de Joël Ursule, qui termine deuxième et sera le tube de cet été-là. Il va aussi écrire les paroles et la musique de 11 chansons pour le nouvel album de Vanessa Paradis, variation sur le même thème. Un cancer généralisé est diagnostiqué après un malaise de Serge lors de vacances aux Antilles, avec Charlotte qui se remet difficilement d'un chagrin d'amour. Le samedi 2 mars, Serge est retrouvé mort, chez lui, rue de Verneuil. L'émotion populaire est immense. Libération publie la version intégrale d'un entretien réalisé 10 ans plus tôt et qui ne devait être publié qu'après sa mort. Et cette phrase de Serge, sur sa mort, dont il dit qu'elle se passera à la fin de la Troisième Guerre mondiale. Une nuit froide. La nuit, c'est mieux, non? Je ferme les guillemets. 2 jours plus tôt, avant la mort de Serge, un cessez-le-feu avait mis fin à la guerre du Golfe. Cette saga, c'est jusqu'à 3h la nuit Gainsbourg sur RTL et on ne manque pas de se faire plaisir. Pour la deuxième partie de cette émission, deuxième de trois parties, nous irons de Gainsbourg à Gainsbar, à l'intérieur du grand studio. Ce sera juste après les infos. Vous écoutez RTL, il est 1h du matin.